Bonjour chers amis, merci de vous joindre à moi. Nous rejoignons un message que j'ai déjà commencé, nous le rejoignons à mi-parcours. Il s'agit du tout premier miracle que Jésus a accompli lorsqu'il a transformé l'eau en vin à Cana, en Galilée. Écoutez, l'histoire est si riche de vérités qui peuvent nous aider dans tant de domaines différents. J'espère que vous prendrez les prochaines minutes pour calmer votre cœur et écouter cet enregistrement avec moi. Bonjour, je m'appelle Bayless Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de difficultés relationnelles, d'une crise de santé ou de la recherche d'un but. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime. Et quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, il a les réponses. Une amie de ma femme et moi nous a dit un jour que la ville où elle vivait comptait une église traditionnelle assez importante. Elle est allée rencontrer le pasteur. Elle a dit qu'il était très aimable et très gentil, jusqu'à ce qu'il découvre l'église à laquelle elle appartenait. Il a dit « Oh, tu vas à cette église où l'on est né de nouveau ? C'est un tas de foutaises. Je ne crois pas à la nouvelle naissance. » Il était diplômé d'un séminaire, imprégné de traditions et de cérémonies religieuses. Mais il n'était pas sauvé. C'était un cas d'aveugle conduisant un autre aveugle. Jésus a dit que lorsque cela se produit, ils finiront tous les deux dans le fossé. Je pense que le cœur d'une personne peut être bon. Je ne suis pas contre les cérémonies, je ne suis pas contre les traditions, car nous savons qu'elles indiquent certaines choses. Je ne suis donc pas du tout contre cela. Mes chers amis, cela ne vous ouvrira pas les portes du paradis. Cela ne vous fera pas entrer dans la famille de Dieu. Vous devez mettre votre confiance en Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Au verset 7, Jésus dit « Remplissez d'eau les cruches ». Il est dit qu'ils les ont remplies jusqu'au bord. Cela me plaît beaucoup. Ils ne les ont pas remplies à moitié, ils les ont remplies à ras-bord. Ils ont obéi avec zèle. C'est ainsi que cela devrait être. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'activités sans enthousiasme dans le corps du Christ. Dans tout ce que nous faisons, nous devrions remplir à ras-bord. S'il s'agit de croire, nous devons le faire de tout notre cœur. S'il s'agit de prêcher, nous devons prêcher en toute saison, bonne ou mauvaise. Ne pas le faire à moitié, comme si nous ne croyons même pas à ce que nous disons nous-mêmes. S'il s'agit d'étudier, tournez les Écritures dans tous les sens. Méditez-les, pensez-y, je veux dire remplissez le récipient de l'étude jusqu'au bord. S'il s'agit de prier, priez puissamment. S'il s'agit de donner, faites-le avec libéralité. Remplissez jusqu'à ras-bord. La Bible dit dans Ecclésiaste 9:10, « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as. » Colossiens 3:23 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. » En Jean 2:10 se trouve une partie intéressante de l'histoire. Lorsqu'on apporte ce vin au maître de la fête et qu'il le goûte, il appelle le marié. Il dit « Tout homme ». Sers d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. N'auriez-vous pas aimé goûter un peu de vin que Jésus a fait? Moi, j'aimerais bien. Écoutez, la vie chrétienne est meilleure que celle que nous avons vécue avant de devenir chrétiens. La meilleure vie que j'ai eue avant d'être sauvé n'est pas comparable à la vie que j'ai maintenant. Mon ancienne vie était inférieure à tout point de vue. Je n'y reviendrai à aucun prix. Avez-vous remarqué que Jésus n'a pas fait payer le vin? C'était gratuit. Le salut ne s'achète pas, le salut ne se mérite pas. Voici la formule du salut, c'est par la grâce au travers de la foi plus zéro. La grâce est la main de Dieu qui se tend et offre le don gratuit en raison de ce que le Christ a fait. La foi est la main qui se tend et la reçoit, plus zéro. Je ne peux pas y ajouter mes bonnes œuvres ou mon mérite personnel. Rien ne peut être ajouté. C'est strictement un don de la grâce de Dieu reçu par la foi. Vous savez, nous sommes nés de nouveau grâce à la semence incorruptible de la parole de Dieu, comme l'a dit Pierre. Mais quelqu'un doit planter cette semence de la parole. Pour moi, c'était un garçon de 12 ans dans un parc. La veille, j'ai frôlé la mort à cause d'une surconsommation de drogue. Le lendemain, je me suis retrouvé dans un parc. J'ai survécu à cette nuit. Un enfant de 12 ans s'est approché de moi et m'a parlé de Jésus. Personne n'avait jamais fait cela auparavant. Je n'avais jamais entendu l'Évangile auparavant. Ce gamin a bouleversé ma vie. Puis, grâce à son influence et à celle de sa petite famille, je me suis retrouvé dans une mission de rue peu de temps après, où j'ai donné ma vie au Christ et suis né de nouveau. Voici une réflexion. Les serviteurs étaient de simples hommes avec toutes leurs incohérences et leurs défauts, mais personne n'a rejeté le vin à cause des faiblesses ou des défauts des serviteurs. Ne rejetez pas l'Évangile à cause de l'humanité de ceux qui la portent. C'est ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 4, 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. Pourquoi rejeter le repas parce que ceux qui le servent sont décevants? Allons plus loin. Vous partez en randonnée dans le désert. Vous vous trompez de chemin. C'est le milieu de l'été. Vous êtes complètement perdu. D'une manière ou d'une autre, vous savez intuitivement que vous vous êtes égaré dans la mauvaise direction. Vous passez une nuit à grelotter. Vous vous rendez compte le matin que lorsque le soleil se lèvera, il fera une chaleur torride. Vous n'avez plus d'eau. Vous vous aventurez un peu plus et finalement, vers midi, il fait environ 49 degrés. Vous vous rendez compte que vous n'y arriverez pas. Vous ne savez pas où vous êtes. Vous êtes épuisé, vous êtes seul dans le désert. Vous vous allongez, posez votre tête sur un rocher et dites « Oh mon Dieu, aide-moi ». Tout à coup, vous entendez quelque chose. Vous regardez et il y a une traînée de poussière qui vient vers vous au loin. Vous vous redressez sur vos coudes pour vous asseoir. Soudain, une vieille Jeep rouillée et déglinguée s'arrête et un homme en sort. La première chose que l'on voit, ce sont ses bottes lorsqu'il sort de la Jeep. Et il y a des trous dans les bottes. Ses vêtements sont tachés de sueur et sales. Ses cheveux sont emmêlés. Il n'est pas rasé. Il pue. Il a mauvaise haleine. Sa peau est couverte d'ampoules. Ses lèvres sont gercées. Il vous propose de l'eau et de vous ramener. Vous dites, pas question, vous puez. Regardez-vous, vous n'êtes pas rasé. Nous n'avons pas été présentés comme il se doit. Je ne veux ni de vous ni de votre voiture. Partez d'ici. Ok, je vous laisse mourir là. Écoutez, tous les serviteurs de Dieu, comme nous l'avons lu plus tôt, ont ce trésor dans des vases d'argile. Pour ma part, j'ai des pieds d'argile qui me remontent jusqu'aux aisselles. Ne vous avisez pas de demander à ma femme après le service quels sont mes défauts car vous resteriez ici toute la journée. J'y travaille, je m'améliore, je grandis. Au fur et à mesure que j'étudie la parole de Dieu, je vais de gloire en gloire, de foi en foi, je grandis. Je deviens plus semblable au Christ, comme vous aussi, je l'espère. Ne rejetez pas le message à cause des faiblesses de celui qui l'a apporté. Le message est pur, le message est vrai et le Sauveur est merveilleux. Les principales leçons que Jean tire de ce signe ont trait à la conversion et au salut. Il y a aussi d'autres leçons, comme la foi des serviteurs. J'aime ce que Marie leur a dit. « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y a là de grandes jarres de pierre. Jésus dit « Remplissez-les d'eau. » Je suis sûr que les serviteurs ont pensé « As-tu mal compris ta mère ?» Elle a dit qu'ils n'avaient plus de vin, pas d'eau. Nous avons beaucoup d'eau, ils n'ont plus de vin. Jésus, il a dit, remplissez-les d'eau. Ils n'ont pas dit, il y a 570 litres, Jésus, notre petit seau qui descend dans le puits fait 7 litres, il nous faudra 45 minutes pour les remplir et il fait chaud. Non, ils l'ont fait, ils lui ont obéi. Ensuite, ils ont dit, « Voilà, c'est bon. » Jésus dit, « Puisez-en maintenant et donnez-en au maître du festin. » Ils devaient se dire, « Tu te moques de nous. » Écoute, Jésus, tu comprends que c'est notre travail, c'est notre gagne-pain. Plus jamais nous ne pourrons travailler à un mariage. On va se ridiculiser, personne ne nous engagera plus jamais. on a une femme et des enfants à nourrir. On pensait que tu allais nous donner de l'argent et nous envoyer en ville pour acheter du vin. Mais vous savez quoi? Ils ont obéi avec zèle. Ils ont puisé et ont apporté au maître de la fête. Et rien n'indique que l'eau se soit transformée en vin avant qu'ils ne la mettent dans la main du maître de la fête. Il fallait de la foi pour faire ce qu'ils ont fait. Chers amis, presque toujours lorsque Dieu est sur le point d'accomplir un miracle en votre faveur, il commence par vous donner un ordre. Lorsque nous y obéissons, les miracles suivent. Notre rôle est d'obéir, discerner ce qu'il dit et le faire. Son rôle est de réaliser le miracle. Il peut sembler que Dieu joue avec vous ou se moque de vous, mais ce n'est pas le cas. Souvent, Dieu vous demandera de faire ce qui semble ridicule avant qu'il ne fasse ce qui est miraculeux. Il vous demande de remplir les récipients d'eau, puis il les transforme en vin. Il veut que vous lâchiez les filets. Il les remplira de poissons. Tu dois faire plusieurs fois le tour de la ville et crier. Ensuite, il fera tomber les murs. Notre rôle est d'obéir. Son rôle est de réaliser le miracle. Notre premier bâtiment est devenu trop petit pour nous après 5 mois. C'était une simple surface commerciale. Ensuite, nous avons loué un immeuble de bureaux commerciaux situé juste en bas de la rue, à 2 pas de l'endroit où vous êtes assis. À l'époque où nous louions ce petit bâtiment, si l'on comptait tous les adultes, les enfants et leurs ours en peluche, et toutes les femmes enceintes deux fois, nous étions 65 personnes. Environ 40, peut-être 45 adultes. Nous louions cet espace et j'ai acheté 160 chaises. Il y a eu quelques murmures à ce sujet, quelles dépenses inutiles. En fait, je me souviens qu'un des couples les plus solides de l'église est venu me voir plus tard et m'a dit « Pasteur, nous avons pensé que vous étiez fou. Vous avez acheté 3 fois plus de chaises que ce dont nous avions besoin. Nous pensions que vous aviez perdu la tête. » Mais vous savez quoi? Dieu a rempli les chaises. Dieu les a remplies. Nous avons dû ajouter un autre culte. Nous avons organisé un service du soir et les chaises étaient remplies. En fait, le premier rang était à peu près là. La batterie était juste derrière moi. Et quand je commençais à prêcher, tout le monde, dans les 3 premiers rangs, prenait une douche. Je postillonnais à tout va jusqu'au 3e rang. Certains d'entre vous sont peut-être passés par là avec nous. Il y a encore pas mal de gens dans l'église qui sont là depuis le premier jour. Nous avons dû ouvrir les portes et nous avons mis toutes ces chaises à l'extérieur. Nous avons dû en acheter d'autres. Nous avons donné des parapluies aux gens pour qu'ils n'attrapent pas d'insolation. Ils s'asseyaient dehors sous la pluie et nous mettions des haut-parleurs à l'extérieur. Nous avons mis des chaises même dans le corridor. En fait, si vous deviez aller aux toilettes pendant le service, vous deviez le faire discrètement parce qu'il y avait des personnes avec des chaises assises juste devant la porte. Ils pouvaient entendre tout ce que vous faisiez. Quelqu'un pourrait demander pourquoi avoir acheté toutes ces chaises. Je ne faisais que remplir mes jarres d'eau. Je remplissais juste les jarres d'eau et Dieu faisait sa part. Il remplissait les sièges et parfois, il faisait même des choses surnaturelles. Nous avons toujours eu une croissance régulière de l'Église, mais il s'est parfois passé des choses inhabituelles. Je me souviens qu'il y a probablement 39 ans, j'étais dans mon bureau, qui était une petite pièce détachée de notre maison. J'ai acheté un bureau et une chaise pour $25 lors d'un vide-grenier. Un samedi matin, j'étais en train de prier pour les cultes à venir le dimanche. Rien de tel ne s'est jamais reproduit. Cela n'arrive pas tous les 3e mardi du mois. Il y a 39 ans, un ange est apparu dans ce petit bureau. Au moment où l'ange est apparu, j'ai entendu une écriture dans mon esprit. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? J'ai immédiatement eu l'impression que je devais envoyer cet ange faire quelque chose. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de commencer à penser aux personnes qui ne vont pas à l'église, aux personnes non sauvées et aux personnes qui ne vont pas à l'église. J'ai fait une liste et j'ai cité les noms. Des gens qui étaient rétrogrades et qui étaient venus à l'église des mois auparavant. Nous ne les avions plus vus depuis des mois et des mois. Encore une fois, des gens non sauvés, des gens éloignés de Dieu. J'ai fait une liste d'une 12 personnes, il y en avait peut-être 15. Et soudain, cet ange a disparu. Le lendemain, dimanche matin, les gens ne savaient pas ce que je faisais. Je me suis levé pour parler et j'ai regardé l'assemblée. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Toutes les personnes que j'avais nommées, sans exception, étaient assises à ce culte. Je ne sais pas s'ils ont fait un rêve la nuit précédente, selon lequel ils devaient venir à l'église, ou si quelqu'un les a appelés, ou s'ils ont simplement eu le désir de venir à l'église. Je ne sais pas comment cela s'est produit, je sais seulement ce qui les a poussés à venir. Mon ami, Dieu peut répondre à tes prières. Il peut faire pour toi des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Ton rôle est d'obéir et de faire ce qu'il t'a dit de faire. Jésus a fait beaucoup de vin, 570 litres. Certains ont dit, tout le monde a dû se saouler. Eh bien, un mariage à l'époque n'était pas comme aujourd'hui. Ce n'était pas seulement l'affaire d'un dimanche après-midi. À l'époque, les noces duraient une semaine entière et tout le village était invité. Jésus a répondu aux besoins de tout un village. Il est Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Quel que soit le type de besoin auquel vous êtes confronté en ce moment ou sa taille, ce n'est pas trop difficile pour Dieu. Écoutez, ce n'est pas trop difficile pour Dieu. J'ai été pasteur adjoint pendant 2 ans. Cela fait longtemps que je n'y avais plus pensé. Dans une église de Beaumont, en Californie, elle s'appelait New Covenant Fellowship. Elle porte un autre nom aujourd'hui. J'apportais le message pendant le culte. Pendant que j'étais devant, j'ai soudain entendu une parole dans mon cœur. C'était vraiment étrange. Je prêche un message biblique et un mot me vient à l'esprit. Parking. Je l'ai ignoré. J'ai continué à prêcher et ce mot est revenu, parking. Alors je me suis arrêté et j'ai dit d'accord. Est-ce que ce mot signifie quelque chose pour quelqu'un ici, parking? Un gars qui venait pour la première fois à l'église a levé la main. Moi, dit-il, je suis propriétaire de tel ou tel restaurant, nous connaissons son restaurant. Il a dit, ils ont démoli mon parking il y a 6 mois. La ville l'a détruit pour une raison quelconque et n'est jamais revenu pour le réparer. Mon parking est détruit depuis 6 mois et mon restaurant est sur le point de fermer. J'ai dit, eh bien, prions pour cela. Nous avons donc prié pour que son parking soit remis en état. Il est revenu le dimanche suivant, il a dit, devinez quoi? Le lundi matin suivant, ce dernier dimanche, la ville est venue sur mon parking et a tout réparé. Ils l'ont refait. Ce que je veux dire, c'est que quel que soit votre besoin, il n'est pas trop difficile pour Dieu. Ce n'est pas trop difficile pour celui qui couvre les cieux de la paume de sa main. Rien n'indique d'ailleurs qu'ils aient bu tout ce vin. Personnellement, je pense que c'était le cadeau de mariage de Jésus à ce petit couple. C'est un peu comme l'histoire d'Élisée et de la veuve. Elle avait un peu d'huile dans son vase et il lui a dit « va emprunter des vases ». Elle a emprunté beaucoup de vases, il a dit « c'est tout », elle a dit « je ne peux pas en emprunter d'autres ». Il lui dit « verse l'huile ». Elle a versé et versé et l'huile a continué à couler et à remplir tous ses récipients. Il a dit « va vendre l'huile et paie ta dette ». Tu vivras de ce qui restera. Je pense que Jésus vient juste d'offrir à ce petit couple un cadeau exquis pour leur mariage. Il a fait ce miracle lors d'un simple mariage dans une ville isolée, parmi des gens pauvres, à Cana. Qui avait entendu parler de Cana? Un petit village de Galilée. Jésus n'a pas fait son premier miracle dans le palais d'Hérode. Il ne l'a pas fait devant l'élite religieuse. Il n'y avait pas de roi ni de dignitaire présent. Juste un jeune couple en détresse et embêté parce qu'il n'y avait plus assez de vin. Pourtant, Jésus a répondu à leurs besoins dans ce village inconnu, loin des célébrités et de la vue des chefs religieux. Il l'a fait à Cana. Cana appartenait à la tribu d'Asher, dont Jacob, mourant, avait prophétisé qu'il fournirait des mets dignes d'un roi. C'est ce qui s'est passé ce jour-là à Cana. Il se peut que vous vous sentiez plutôt négligé dans le grand tableau d'ensemble des choses. Vous vous dites peut-être, est-ce que quelqu'un sait que j'existe? Dieu vous voit. Vos besoins sont importants pour lui. Les gens ne vous connaissent peut-être pas, les gens ne vous voient peut-être pas, mais le Créateur vous voit. Vos besoins et les choses auxquelles vous êtes confrontés sont importants pour lui. Vous pouvez goûter à des mets dignes d'un roi. Cela peut arriver dans votre vie. Il suffit de faire ce que ce jeune couple a fait. Ils ont invité Jésus à leur mariage. Jésus ne débarque pas sans être invité. Il entre dans nos vies et nos circonstances sur invitation. Vous devez l'inviter à entrer. Je veux prier avec vous dans un instant et vous donner une invitation, une occasion d'être changé. Oui, je regarde le pot d'argile, mais il y a quelque chose d'extrêmement précieux dedans. Il y a quelque chose d'éternel à l'intérieur. Le jour viendra où vous laisserez votre corps à la mort si Jésus ne revient pas avant. Cela arrive à tout le monde. Cela me fait un peu peur, j'ai presque 70 ans, je ne sais pas comment c'est arrivé. Ça m'a un peu échappé, j'ai toujours environ 21 ans à l'intérieur et j'ai toujours ma part de folie sanctifiée, mais c'est juste bizarre. C'est une pensée bizarre. La personne qui vit dans mon corps et celle qui vit dans votre corps sont éternelles. Vous passerez l'éternité quelque part, vous le ferez. J'ai de bonnes nouvelles. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Né de nouveau, changé et transformé en une nouvelle création. Jésus a dit que ce qui est né de l'Esprit est votre esprit. Au début du livre de la Genèse, nous voyons le Saint-Esprit planer au-dessus des eaux. Qu'attend-il? Il attend que Dieu prononce cette parole, que la lumière soit. Dès que Dieu parle, l'Esprit crée. En ce moment, le Saint-Esprit est en train de planer. Il plane en ce lieu. Vous avez entendu la parole du Seigneur. Dès que vous l'accueillez, la création s'opère en vous. Vous devenez une nouvelle création en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vous changera, chers amis. Vous ne pouvez pas y arriver par des rituels, vous ne pouvez pas y parvenir par des cérémonies. On n'y accède pas en adhérant à des règles et à des règlements. Cela vient de la confiance dans le Sauveur ressuscité. Je veux vous guider dans une prière, et je n'aurai pas fini. Il y a quelques autres pensées que je veux partager et qui, je pense, vous aideront avant que nous ne partions aujourd'hui. Si cela vous aide de fermer les yeux et de baisser la tête maintenant, vous pouvez le faire. Mais seulement si vous le voulez. Seulement si vous le voulez, je vais prier. En fait, je vais compter. Je vais compter jusqu'à 3. Si vous voulez participer à cette prière, levez la main quand je compterai jusqu'à 3. En levant la main, vous direz « Oui, je veux prier ». Ensuite, je noterai toutes les mains levées, puis vous pourrez les baisser. Je conduirai tout le monde à la prière. Je crois personnellement qu'un acte aussi simple que de lever la main peut aider votre foi à se tourner vers Dieu. La Bible dit que la foi s'exprime par l'action. C'est très clair dans le livre de Jacques 2. Voyez les choses de la manière suivante. Votre cœur s'élève vers Dieu. Votre main n'est que le reflet extérieur de ce qui se passe dans votre cœur. J'aimerais élargir un peu l'invitation. Vous êtes peut-être ici et n'avez jamais accepté Christ. Vous êtes peut-être conscient de vos péchés et de vos manquements. Vous savez que vous avez besoin d'un sauveur. Ou bien vous êtes peut-être un revenant, ici aujourd'hui un fils ou une fille prodigue. Vous avez eu une véritable rencontre avec Jésus-Christ à un moment donné de votre vie. Vous l'avez peut-être aimé quand vous étiez enfant et vous l'avez rencontré quand vous étiez jeune adulte. Vous avez peut-être eu des problèmes à un moment donné de votre vie et vous avez fait appel à Dieu. Il vous a secouru, mais vous n'avez jamais tenu les promesses que vous lui aviez faites. Il est temps de rentrer à la maison, enfant prodigue. Je veux aussi prier avec toi. 1. 2. Si vous voulez participer à la prière, levez la main. 3. Levez-la bien haut pour que je puisse la voir dans tout l'auditorium. Gardez-la en l'air pendant une minute. Le plus important, c'est que Dieu voit votre cœur en ce moment même. Même un acte aussi simple que de lever la main est important. Très bien. Il semble que pratiquement dans chaque section, des mains se lèvent. Allez-y, baissez-les. Mettez une main sur votre cœur, attachez votre cœur à ces mots et adressez-les à Dieu avec sincérité. Dites simplement. Ô Dieu, je viens à toi maintenant, de tout mon cœur. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Je crois qu'il est mort sur la croix pour enlever mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité des morts. Je lui demande maintenant de venir dans ma vie. Jésus, Je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tout ce que je suis et tout ce que j'ai, je le remets entre tes mains, Jésus. Où que tu me conduises, j'irai. Amen. J'espère que vous avez fait cette prière avec l'Assemblée juste à l'instant. Si vous l'avez faite d'un cœur sincère, mes amis, Dieu vous a entendu. Vous lui appartenez maintenant, vous êtes la propriété de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Maintenant, vous avez besoin de commencer à grandir spirituellement. Si vous n'avez pas de Bible, procurez-vous-en une et commencez à la lire. Commencez par le Nouveau Testament. Je serais ravi que vous nous contactiez. Faites-nous savoir si vous avez demandé à Jésus d'entrer dans votre vie. Nous ferons de notre mieux pour vous aider à franchir les prochaines étapes de votre voyage. Où que vous soyez, nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Vous devez savoir qu'il ne vous laissera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Dieu vous a marqué de son sceau et vous lui appartenez. Louez son nom pour toujours.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.
Nous connaissons tous des moments difficiles dans la vie. Les tempêtes de la vie peuvent toucher tout le monde. Mais peu importe ce que vous traversez, Dieu a des réponses pour vous. Il connaît un chemin que vous pouvez suivre. J'en ai moi-même fait l'expérience. Dieu m'a libéré du désespoir le plus profond et de la toxicomanie. Je suis convaincu qu'il peut aussi vous aider. Je vous raconte mon histoire dans le mini-livre « Il y a toujours de l'espoir ».
Téléchargez gratuitement le livre au format PDF. Il vous suffit de vous rendre sur belez-conley.fr/espoir pour découvrir comment Dieu vous offre à vous aussi un nouvel espoir.